à bout de souffle. Samedi 30 juin, à l'appel de collectifs, d'associations, de syndicats et de partis politiques, des manifestations pour la régularisation de tous les sans-papiers étaient organisées un peu partout en France. À Orléans, depuis le printemps, 114 sans-papiers sont sortis de la clandestinité pour réclamer leurs droits et des papiers. Après avoir occupé trois lieux dans la ville, ils sont aujourd'hui accueillis dans les locaux du Parti communiste d'Orléans et dans les locaux de l'association Le Chien d'Inde. Ce, suite à l'accord donné par la préfecture du réexamen de tous les dossiers. Depuis quelques années, la France a renforcé son dispositif législatif, fabriquant davantage de sans-papiers. Le nouveau gouvernement, qui poursuit l'objectif de 25 000 expulsions à l'année, envisage de rendre encore plus contraignant l'accès au territoire pour les étrangers. Nous ne sommes pas à une époque où il s'agit d'améliorer le sort de quelques-uns dans une Europe où globalement tout va mieux. Derrière les écrans de télévision, des centaines de milliers de personnes, rien qu'en France, subissent violemment le déni des droits fondamentaux. Aucune paix dans le monde ne peut mettre un pays à l'abri de la guerre. Si un peuple affirme sa priorité, sa préférence sur un autre. Tenter de construire un avenir sur cette base ou bricoler avec cette idée, c'est conduire le monde à la guerre. Guerre qui ne pourra qu'être pire que ce que l'histoire a déjà connu.
Scoppia un nuovo problema nel mondo. Si chiama colore. Si chiama colore la nuova estensione del mondo. Dobbiamo annettere l'idea di migliaia di figli neri o marroni, infanti con l'occhio nero e la nuca ricciuta. Altre voci, altri sguardi, altre danze. Tutto dovrà diventare familiare e ingrandire la terra. Dobbiamo accettare distese infinite di vite reali che vogliono, con innocente ferocia, entrare nella nostra realtà.
Comment va s'exercer le droit de tuer et la fonction du meurtre, s'il est vrai que le pouvoir de souveraineté recule de plus en plus et qu'au contraire avance de plus en plus le biopouvoir disciplinaire ou régulateur. Comment est-ce qu'un pouvoir comme celui-là peut tuer? Comment, s'il est vrai qu'il s'agit essentiellement de majorer la vie, d'en prolonger la durée, d'en multiplier les chances, d'en détourner les accidents ou bien d'en compenser les déficits, comment dans ces conditions est-ce qu'il est possible pour un pouvoir politique de tuer, de réclamer la mort, de demander la mort, de faire tuer, de donner l'ordre de tuer, d'exposer à la mort non seulement ses ennemis, mais même ses propres citoyens? Comment est-ce qu'il peut laisser mourir ce pouvoir qui a essentiellement pour objectif de faire vivre? Comment exercer le pouvoir de la mort, comment exercer la fonction de la mort dans un système politique centré sur le biopouvoir? Eh bien, je crois que c'est là qu'intervient le racisme. C'est là qu'intervient le racisme. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire du tout que le racisme a été inventé à cette époque. Il existait depuis bien longtemps, mais je crois qu'il fonctionnait ailleurs. Ce qui a inscrit le racisme dans les mécanismes de l'État, c'est bien l'émergence de ce biopouvoir. C'est à ce moment-là que le racisme s'est inscrit comme mécanisme fondamental du pouvoir, tel qu'il s'exerce dans les États modernes. Et ce qui fait qu'il n'y a guère de fonctionnement moderne de l'État qui, à un certain moment, à une certaine limite et dans certaines conditions, ne passe pas par le racisme. En effet, qu'est-ce que c'est que le racisme ? Eh bien, c'est d'abord le moyen d'introduire dans ce domaine de la vie que le pouvoir a pris en charge, d'introduire enfin une coupure. La coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir, dans le continuum biologique de l'espèce humaine. L'apparition des races, la distinction des races, la hiérarchie des races, la qualification des races, de certaines races comme bonnes et d'autres au contraire comme inférieures, tout ceci va être une manière de fragmenter ce champ du biologique que le pouvoir a pris en charge, ça va être une manière de décaler à l'intérieur de la population des groupes les uns par rapport aux autres, bref, de pouvoir établir une césure qui sera de type biologique à l'intérieur d'un domaine qui se donne comme étant précisément un domaine biologique. Ça va permettre en gros, si vous voulez, au pouvoir de traiter une population comme un mélange de races, ou plus exactement, de traiter l'espèce, de subdiviser l'espèce qu'il a pris en charge en sous-groupes qui seront précisément les races. C'est là la première fonction du racisme. Donc, de fragmenter, de faire des césures à l'intérieur de ce continuum biologique auquel s'adresse le biopouvoir. Et d'un autre côté, eh bien, le racisme aura, et c'est sa seconde fonction, il aura pour rôle de permettre d'établir une relation positive, si vous voulez, du type, plus tu tueras, plus tu feras mourir ou plus tu laisseras mourir, et plus, du fait même, toi, tu vivras. On dirait que cette relation entre, si tu veux vivre, il faut que tu fasses mourir, il faut que tu puisses tuer. Cette relation, après tout, ce n'est pas le racisme ni l'État moderne qui l'a inventé, c'est la relation guerrière. Pour vivre, il faut bien que tu massacres tes ennemis. Mais le racisme fait justement fonctionner cette relation type guerrier. Si tu veux vivre, il faut que l'autre meure. Le racisme va la faire fonctionner, va la faire jouer d'une manière qui est toute nouvelle et qui est précisément compatible avec l'exercice du biopouvoir. D'une part, en effet, le racisme va permettre d'établir entre ma vie à moi et la mort de l'autre une relation qui n'est pas une relation militaire et guerrière d'affrontement, mais une relation de type biologique. Plus les espèces inférieures tendront à disparaître, plus les individus anormaux seront éliminés, moins il y aura de dégénérés par rapport à l'espèce, plus moi, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce, je vivrai, je serai fort, je serai vigoureux, je pourrai proliférer. La mort de l'autre, ce n'est pas simplement ma vie dans la mesure où ça serait ma sécurité personnelle. La mort de l'autre, la mort de la mauvaise race, de la race inférieure ou du dégénéré ou de la normale, c'est ce qui va rendre la vie en général plus saine. Plus saine et plus pure. Rapport donc non pas militaire, guerrier ou politique, mais rapport biologique. Et c'est, si ce mécanisme peut jouer, c'est que les ennemis qu'il s'agit de supprimer, ce ne sont pas les adversaires au sens politique du terme, ce sont les dangers, dangers externes ou internes, par rapport à la population et pour la population. Autrement dit, la mise à mort, l'impératif de mort n'est recevable dans le système du biopouvoir que s'il tend non pas à la victoire sur des adversaires politiques, mais s'il tend à l'élimination du danger biologique et au renforcement directement lié à cette élimination de l'espèce elle-même ou de la race. La race, le racisme, c'est la condition d'acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation.
will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm Women Liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
À forte raison d'opprimer quelqu'un, à forte raison de le condamner, à forte raison de, à chaque jour quand il vient, tu gifles quelqu'un, tous les matins à un moment donné, le gifler révolte. À un moment donné, je dis que je m'en fous. S'il me gifle, je vais le gifler, quel que soit le prix, je vais encaisser, je vais jurer jusqu'au bout, quoi. Puisque ça a resté longtemps, 5 ans, 6 ans, 10 ans sans papier, vivre là clandestinement, t'as pas le droit au logement, t'as pas le droit au semi, t'as pas le droit au travail. Et bon, donc jusqu'à quand? C'est là le point d'interrogation. Donc à un moment donné, il faut s'évader, il faut péter les chaînes et payer tout de façon... Là, si ça doit payer, ça paye. Si ça doit casser, ça doit casser. Quoi. Et surtout, nous, les Mauritaniens, nous, on est des gens qui sont ni refoulables, ni expulsables, ni régalisables. On ne peut pas nous ramener chez nous et on ne peut pas donner papier.
Ouais, c'est sans papier à vie, en fait.
Ah ben, ouais, sans papier à vie. Et donc, il faut faire quelque chose pour que ça change. Quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi au quotidien d'être sans papier?
Comment?
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi au quotidien d'être sans papier?
Eh ben, toujours là, sans papier, tu n'as droit à rien. Là où tu pars, tu es accompagné de la peur. Là où tu pars, du contrôle brusque. Et à chaque fois, tu entends des gens ont refoulé. Tu vas dans la télé, les lois de Sarkozy, la politique d'immigration. Donc, ça étouffe, ça démoralise et ça perturbe. Donc, à un moment donné, c'est bizarre. Donc, il faut bouger. Soit on gagne, soit on perd. De toute façon, tout est là, quoi.
Et la préfecture, elle a accepté de vous recevoir?
Oui, elle nous a réussi en parlant et elle a commencé à étudier certains dossiers. Donc, ce qui fait que on est dans l'attente.
Et là, maintenant, la liste, elle est bloquée. Est-ce que d'autres personnes peuvent se rajouter dans cette liste ou
c'est déjà la liste est complète. Elle est déjà envoyée. Les gens sont partis. Donc, voilà, quoi. On attend les résultats, quoi.
Ce que vous espérez finalement, c'est qu'il y ait d'autres mouvements qui naissent un peu partout.
On espère bien. On espère que ça bouge dans toute la France. Là où il y a des sans-papiers, des mouvements comme ça naissent pour qu'il y ait vraiment qu'on ait nos droits. On a un droit de vivre, on a un droit de travailler, on n'est pas là pour faire des conneries, on n'est pas là pour faire la drogue, on n'est pas là pour voler, on est là pour travailler, pour vraiment survivre. Et en plus aussi qu'on a vécu une oppression chez nous. On est victime d'une question raciale chez nous. Nous sommes des Mauritaniens, on n'est pas reconnus comme des Mauritaniens.
Et est-ce que tu as l'impression que depuis ce mouvement, les gens ont changé de regard et ont aussi été sensibilisés à la question des sans-papiers? Est-ce que depuis ce mouvement-là, Orléans, il y a une nouvelle mobilisation concernant la question des sans-papiers?
Oui, il y a une nouvelle mobilisation, franchement, puisque je vois la CGT joue un rôle primordial dans cette affaire avec le Chanda et d'autres organismes. Donc, ça prend une allure, ça n'a jamais été. Donc, depuis que je connais là, je n'ai jamais vu un mouvement pareil, une détermination pareille.
C'est quoi le Chien Dans? C'est une association qui regroupe plein d'associations, c'est ça?
Non, c'est une association comme CGT, comme une autre. C'est une association des gens qui soutiennent les sans-papiers, de mal logés, qui enveloppe tout en quelque sorte.
Alors vous avez apparemment occupé 3 lieux différents. À chaque fois, la police est intervenue, elle a vidé les lieux. Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Est-ce qu'il y a eu, suite à ces expulsions de lieux, est-ce qu'il y a eu des reconduites à la frontière?
Non, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de reconduites en ce qui nous concerne. Mais à chaque fois qu'on occupe un lieu, on nous convoque au tribunal et on nous dit de quitter le lieu. On change de lieu, on va un autre, d'un lieu à un autre. Et là, en espérant bien sûr une suite favorable, on est toujours là-dessus et on continuera jusqu'au bout.
Alors maintenant, vous êtes en fait accueilli par le Parti communiste,
ouais,
qui vous héberge.
Ouais.
Et comment ça a apparu d'un seul coup que le Parti communiste me propose son siège social? Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau pour le Parti communiste, non?
Oui, vous savez que dans la vie, il faut être humain. C'est l'humanisme. C'est l'envie de vouloir aider, c'est reconnaître l'autrui, son semblable, qui vit dans une situation vraiment dégradante, qui vit des années et des années dans ces calvaires. Donc à un moment donné, il faut avoir quand même le cœur rafraîchi pour pouvoir vraiment faire un petit jeu ou jouer quelque chose pour aider ces gens-là qui sont dans la nécessité et qui ne sont pas là pour mal faire, qui sont là pour sauver leur vie. On est là pour une survie. Puisqu'on est tué chez nous, on est maltraité, on est expolié de nos biens, on est déporté, on est déshabillé à nu, et donc on n'a pas droit à rentrer chez nous, on n'est pas reconnu chez nous. Et là aussi, on vient ici, on n'a pas droit à travailler, on n'a pas droit à rien du tout. Même un bout de papier pour s'identifier, pour pouvoir travailler, cotiser, payer les impôts, avoir une HLM, grosso modo, faire une participation au niveau de l'État français, et même ça, on n'a pas droit. Donc on nous prive de tout ça. Et donc c'est vraiment regrettable.
Non, 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 aux arrestations, aux rafles, non, non, non.
Se non si grida viva la libertà umilmente, non si grida e viva la libertà. Se non si grida e viva la libertà ridendo, non si grida e viva la libertà. Se non si grida e viva la libertà con amore, non si grida e viva la libertà.
Ces gens-là, ils sont ni expulsables ni régularisables, quoi. Et c'est pour ça qu'on apporte notre soutien, d'ailleurs, à tous les sans-papiers. Parce que d'autant qu'il y a d'autres pays européens qui ont régularisé les sans-papiers et en France, on refuse, quoi, de les régulariser.
Comment vous expliquez ça?
Comment
vous l'expliquez, ça, qu'en France, ça bloque?
Ils sont plus royalistes que les autres pays européens, quoi. Hein, y compris des gouvernements de droite, hein, parce qu'il y a eu des gouvernements. En Allemagne, il y a eu des régularisations, en Italie, il y a eu des régularisations, en Espagne, des régularisations, et qu'en France, il n'y a pas de régularisation massive, quoi.
Vous qui êtes donc au Parti communiste, donc, vous avez toujours encouragé à l'intérieur du Parti communiste, ces positions-là, vous les avez toujours encouragées, en tout cas.
Bien sûr, on l'a encouragé. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Bon, il y a un moment donné, c'est vrai que dans le mouvement ouvrier, il y a eu des gens qui pensaient que les immigrés ont vocation à retourner chez eux. Hein, à l'époque, il y a eu même des problèmes qu'on a critiqués après l'affaire qu'il y a eu à Vitry dans la rébellion parisienne.
C'était quoi cette affaire?
Ben, il y a eu des Maliens qui étaient dans un local et que le parti, enfin, des militants communistes ont muré le local, quoi. Et donc, après, on a critiqué cette position, quoi. Mais ça remonte déjà aux années 70.
Oui, parce que dans le mouvement ouvrier, il y a aussi cette idée que finalement l'étranger vient prendre le travail des Français.
Ben, ça existe, puisque malheureusement le Front National, il fait un score important chez les ouvriers. C'est sûr.
On va leur donner à bouffer pour ça.
Mesdames, bonjour. Je peux vous poser quelques questions?
Non, merci.
D'accord. Parce que je voulais juste avoir votre regard sur cette manifestation qui passe en pleine solde.
savoir si vous étiez au courant, vous savez pourquoi il y a cette
manifestation. Non, c'est une vie pour les émigrés, pour les sans-papiers. Alors, il y a un moment que ça dure, déjà.
Ça fait longtemps que ça dure à Orléans ?
Ah oui, on a plusieurs mois, hein, Violette.
Moi, je ne suis pas à Orléans, en fait, j'arrive de Tours. Donc, comme il y a ça, un appel national, il y a des manifestations un peu partout en France. Alors, je me suis dit que j'allais venir à Orléans. Et effectivement, il se passe des choses depuis un certain temps. Et donc, c'est des occupations. Comment vous voyez ça, quel regard vous portez sur cette situation ?
Il n'y a déjà pas beaucoup d'argent en France, il y a beaucoup déjà de chômage. Alors encore, si on leur donne pour ceux-là, c'est bien. Mais dans un mois, dans trois mois, dans six mois, il y en a qui vont revenir. On dira à Orléans, on donne des papiers, nous on revient. Et ça s'est déjà produit.
Vous craignez que les gens arrivent là, comme ça, en masse à Orléans ?
Oh, il y en a toujours qui arrivent, hein, tout le temps, tout le temps. C'est malheureux parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais il faut les aider là-bas, mais pas ici.
Là, en fait, c'est des gens qui sont là, manifestement, en tout cas, depuis plusieurs années.
Il y a un moment qu'ils sont là.
Au moins 7 ans, 6 ans.
Ils sont délogés d'un endroit sur l'autre pour aller... ils ont été dans la rue, dans le faubourg Bannier. Je me rappelle plus. Ils ont été par là, dans les...
Vers le faubourg Bannier.
Voilà, et puis là, je les vois, là, dans la rue du Marcel Proust. Il y a le machin du Parti communiste, là, la permanence. Et là, ils sont là dans la journée. Je les vois quand je passe, là. Mais...
Vous savez qu'ils sont en France depuis plusieurs années, 7 ans, 10 ans pour certains ?
Je ne sais pas, il y a plusieurs.
C'est ce qu'ils m'ont dit et c'est ce qui est avéré par la préfecture, qu'effectivement ils sont là depuis plusieurs années.
Il y a un moment qu'ils sont là, ils parlent bien français, mais il y a pas de... ils ne leur donnent pas de papier. Alors ils ne travaillent pas de papier, ils ne travaillent pas, ou alors ils travaillent au noir.
C'est ça, quand on n'a pas de papier, on n'a pas le droit de travailler, donc on est forcé à travailler au noir.
Pour manger, c'est normal, et ils travaillent au noir. Et puis ils sont exploités.
Ils sont exploités.
Beaucoup. Alors c'est malheureux, les exploités, ils sont des gens comme nous. Hein. Bon, parce qu'ils ont la peau noire, que faut les exploiter. Il faut qu'ils vivent normalement et qu'on leur donne des logements. Si on donne des papiers, qu'on leur donne un logement aussi. Il n'y en a déjà pas pour les Français, des logements.
La question, c'est finalement pour les hommes et les femmes, pour tous les habitants du...
Les femmes et les enfants qui sont là.
Français ou pas français, finalement, au bout du compte.
Voilà.
Parce que la misère, elle n'est pas nationale.
Elle est partout. Il y en a toujours eu en France. Hein. Ça a été les Italiens, ça a été les Espagnols, ça a été... c'était tout qui arrive en France. Hein. On les repousse de partout. Alors qu'on leur donne les aides dans les pays qui sont là-bas pour qu'ils puissent travailler là-bas.
Et vous pensez qu'une fois qu'ils sont là, la préfecture, elle devrait quand même trouver une solution ?
Faire un geste. Dire, on vous donne ça, mais après, c'est fini, on ne donnera plus. Alors. Mais alors, ils vont aller dans d'autres pays, ce sera pareil. Dans d'autres villes. Tout ce que je peux vous dire.
C'est le programme en quelques siècles. Vous connaissez, c'est Armand Robin. Bien sûr, et je trouve que... J'entends certains ministres en train de... ou personnalités politiques en train de faire leur discours en ce moment, et je me suis dit, tiens, il faudrait que ça soit lu à la télévision le soir à 20h. On supprimera la foi au nom de la lumière. Puis on supprimera la lumière. On supprimera l'âme au nom de la raison, puis on supprimera la raison. On supprimera la foi au nom de la lumière, puis on supprimera la lumière. On supprimera l'âme au nom de la raison, puis on supprimera la raison. On supprimera la charité au nom de la justice, puis on supprimera la justice. On supprimera l'amour au nom de la fraternité, puis on supprimera la fraternité. On supprimera l'esprit de vérité au nom de l'esprit critique, puis on supprimera l'esprit critique. On supprimera le sens du mot au nom du sens des mots, puis on supprimera le sens des mots. On supprimera le sublime au nom de l'art, puis on supprimera l'art. On supprimera les écrits au nom des commentaires, puis on supprimera les commentaires. On supprimera le saint au nom du génie, puis on supprimera le génie. On supprimera le prophète au nom du poète, puis on supprimera le poète. On supprimera l'esprit au nom de la matière, puis on supprimera la matière. Au nom de rien, on supprimera l'homme, on supprimera le nom de l'homme. Il n'y aura plus de nom. Voilà, nous y sommes.
Orléans, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de militants sur le terrain, militants du PCF sur le terrain depuis quelques temps, ce qui était effectivement pas forcément le cas avant. Je pense qu'ils ont une démarche politique qui est d'essayer de se réancrer dans le mouvement social parce que en fait, la politique qu'ils ont menée ces dizaines de dernières années convient pas et leur fait perdre énormément d'électeurs. Donc ils essaient de se réaffirmer dans des combats de terrain, les sans-papiers et d'autres sujets, le logement aussi sur Paris. Bon, voilà quoi. Ça fait, on va dire, deux ans, peut-être un petit peu avant, où le PCF a entamé cette démarche d'aller plus sur le terrain, avec des militants sur le terrain. Bon, après, nous, on sait très bien ce que ça amène. Hein. C'est après, voilà, l'électoralisme, l'appel à voter au PCF, à faire le barrage à la droite, et blablabli, blablabla, avant tous les refrains standards qu'on va entendre dans les médias. Quoi. Leur but du jeu, c'est quand même ça. Hein. C'est un parti institutionnel qui a besoin d'argent pour fonctionner, et quand ils perdent dans les élections, bah, c'est pas bon pour eux, hein, ça c'est sûr.
Mais c'est pas quand même finalement un peu porteur de renouveau ou d'espoir le fait c'est que pas... bon ça se resserre à gauche, en tout cas pour le PC.
Moi, je suis à la CNT, je suis aussi politiquement, individuellement anarchiste, je suis parti de la Fédération anarchiste, mais je ne jugerai pas là-dessus en fait. Moi je m'en fous que le PCF se présente ou pas aux élections, et à la rigueur je m'en fous de leur position sur le politique, du moment qu'ils sont sur le terrain. Si on dit, on a, là c'est le cas, on a 140 dossiers de sans-papiers, on veut tous les régulariser, et n'importe qui, que ce soit les femmes, les enfants, les hommes, les célibataires, les mariés, les pas mariés, etc. Eux, on veut des papiers pour tout le monde, ok? Si le PCF est d'accord là-dessus, on travaille avec eux, à la rigueur. Après, l'appel ou non à voter, le positionnement des adhérents, que ce soit syndicaux, à la CNT ou ailleurs, hein, c'est leur choix. Mais à la rigueur, voilà, c'est une position qui est défendable et qui, à mon avis, est... Voilà, sur un point précis, ils veulent travailler, ils sont sur exactement les mêmes mots d'ordre, les objectifs, de travailler avec eux. Le jour où ça va pas, eh ben, on arrêtera de travailler sur ce sujet-là et on travaillera sur autre chose. Avec eux ou avec d'autres, avec eux ou avec d'autres.
Est-ce que c'est nouveau à Orléans, une telle mobilisation des sans-papiers ?
Non, c'est pas nouveau. Il y a eu en 98 hein, l'occupation de la cathédrale, qui était aussi portée par des organisations politiques, on va dire, radicales, dans la mouvance bon, gauche jusqu'à l'extrême gauche, on va dire, de la gauche jusqu'à l'extrême gauche. D'ailleurs, à l'époque, la gauche avait soutenu, hein, la gauche, on va dire, la gauche social-démocrate avait soutenu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. On a très peu de contacts. Alors évidemment, il y a les parrainages républicains, etc. Mais dans les actions franches, dures de terrain, les socialistes et la gauche, on va dire, réformiste et progressiste, on la voit pas, quoi. On va retrouver le PCF, la LCR, un petit peu LO, voilà, et puis bon, les organisations radicales, qu'elles soient politiques ou non, hein, comme des associations aussi qu'on peut retrouver.
Comment t'expliques, toi, ces dernières années en France, là, cette montée comme ça d'un discours qui est celui de mettre toutes les malheurs sur la faute des étrangers? Comment t'expliques ça? À quoi c'est dû?
Je pense que c'est mon analyse à moi, ok? Le capitalisme, il a besoin de fonctionner. On va pas refaire le marxisme et blablabla, blablabla sur la valeur travail. N'empêche que le capitalisme, il fonctionne sur, on va dire, les marges arrière. C'est-à-dire que le chômage, il est nécessaire, ça permet de tirer les salaires vers le bas. Le logement, la pénurie de logement qui est actuelle assez forte, mais qui a toujours existé, c'est pareil. Ça permet de tirer les prix et d'appliquer une politique immobilière de spéculation, etc. Les sans-papiers, c'est pareil. Grâce aux sans-papiers, on arrive aussi à mettre la pression sur les salariés, sur la pression des salariés eux-mêmes. On le voit bien avec Buffalo Grill en ce moment à Paris. C'est-à-dire que, voilà, vous travaillez pour que dalle, mais vous fermez votre gueule.
Buffalo Grill, c'est l'histoire de sans-papiers qui étaient donc embauchés au Black par Buffalo.
Des sans-papiers qui ont été embauchés à Buffalo Grill alors qu'ils n'avaient pas de papier. Donc, avec pas mal d'histoires de faux papiers, de faux contrats, etc. Et aussi une espèce de gestion, on va appeler ça la ressource humaine, où les Buffalo Grill de Paris passaient des sans-papiers à des Buffalo Grill du Sud, voilà, comme ça, sans que la préfecture soit au courant, sans qu'il y ait aucune démarche du patron pour la régularisation du sans-papier. À la rigueur, je vais pas être dans le discours, tous les patrons sont tous pourris, non, moi ce que je dis, c'est que voilà, il y a des patrons qui se démènent pour essayer d'avoir des employés, mais au moins, je veux dire, ils ont au moins l'honnêteté de dire, voilà, on l'accueille, on lui file du travail, et nous, en contrepartie, ils bossent pour nous, en contrepartie, on fait la démarche, c'est un minimum, le minimum. Les patrons maintenant, ils ont même plus la décence de faire ça, et fallait pas s'attendre à mieux de toute façon. Mais effectivement, les sans-papiers, c'est une variable d'ajustement. Voilà, on met la pression sur les sans-papiers pour qu'ils travaillent moins cher.
Alors, s'il s'agit de. Si le capitalisme a tout intérêt à ce qu'il y ait une réserve de chômage importante. Comment t'expliques finalement les différentes tentatives et en tout cas ce qui se fait, toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années qui visent à expulser un certain nombre de chômeurs pour réduire le taux de chômage? Pourquoi alors passer par des mesures qui visent à réduire faussement, mais en tout cas à le réduire dans le chiffre, le nombre de chômeurs?
Mais, bah, c'est marrant parce que effectivement c'est faussement. Parce que, mais vous parlez avec n'importe qui. Nous, on est des militants de base, donc on a un travail, on a des familles, etc. On discute avec les gens. Mais c'est, je veux dire, les gens savent très bien qu'il y a du chômage. Les chiffres, ils s'en foutent des chiffres. À chaque fois que tu as un nouveau chiffre qui tombe en disant ouais, réduction du chômage, etc., la première réaction des gens, c'est ah ouais, bah, on ne dirait pas quoi. Voilà, alors déjà, il y a ça. Et puis arrêtez, allez où? Allez qu'en fait, on expulse, enfin, on retire des chômeurs donc du calcul officiel, mais ça reste, ça laisse quand même une bonne marge quand même. Hein. Ça laisse encore combien? 1 million, je crois, un petit peu moins. Maintenant, on est à 800 000, je crois.
2 millions. Enfin, millions. On est passé un petit peu en dessous de la barre des.
Ah voilà, ça doit être 1 800 000, ça va être ça. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on reste quand même à un chiffre qui est assez important et qui met la pression aux salariés. Qu'il y en ait une partie qui partent, bah voilà, c'est ceux qui veulent pas se. Puis il y a aussi cette. Il y a aussi ça, aussi le capital, il joue sur la valeur, enfin sur l'ajustement, hein, d'avoir un grenier, on va dire, des ressources qui peut tirer vers le haut ou vers le bas. Mais il y a aussi la peur, c'est-à-dire que quand les gens ils sont dans le système de la NPE, qui refusent de se soumettre à l'accompagnement, ils appellent ça comme ça, l'accompagnement pour l'emploi, quand c'est n'importe quoi, c'est-à-dire on loupe un rendez-vous pour une cause familiale ou quoi, on est radié, il y a un travail qui ne correspond pas à nos compétences, on est radié, voilà, ça c'est la peur, c'est-à-dire qu'on fait peur aux salariés, et on fait peur aussi aux chômeurs maintenant, c'est-à-dire que les chômeurs ils ferment leur gueule, ils veulent plus rien revendiquer, parce que voilà, ils ont perdu le bâton, voilà, c'est tout.
Alors une dernière question, il y a certains mouvements de gauche qui disent que la société du plein emploi, ça n'existerait jamais, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est un gros mensonge de nous faire croire que le plein emploi est possible, et qu'il faut donc repenser toutes les économie avec cette question du chômage. Est-ce que toi tu penses que le plein emploi c'est possible vraiment et que c'est pas du flan?
Qu'est-ce qu'on appelle le plein emploi? C'est-à-dire que tout le monde est salarié avec un patron, etc. Bon bah moi j'y crois pas à ce plein emploi là. Moi non plus j'y crois pas. Moi ce que je crois c'est notre société non hiérarchisée, autogestionnaire, etc. Donc où les gens prennent en main leurs problèmes de la vie de tous les jours, de la vie de quartier, de la vie communale, de la vie départementale, de la vie des travailleurs, etc. Dans le système actuel, avec le capitalisme, ça ne fonctionne pas le plein emploi, c'est sûr. C'est-à-dire, on a eu tous les systèmes, libéraux de droite, libéraux de gauche, le capitalisme d'État avec l'URSS, la Corée, etc. Le communisme ne fonctionne pas, enfin le communisme, on va dire, d'État, le stalinisme, le léninisme, ses dérivés ne fonctionnent pas. L'État libéral ne fonctionne pas au niveau du plein emploi. Moi, c'est mon avis. Après, quelqu'un de droite va te dire « Bah non, le libéralisme d'État, ça fonctionne. » Bah oui, lui, il s'en fout qu'il y ait du chômage. Hein. Il y a un moment qu'il y a de la thune, qu'il y a de la valeur ajoutée, qu'il y a de la monnaie se brasse, etc. Pour lui, ça lui convient. Non, je pense que si on veut réellement qu'il y ait un travail pour tout le monde, hein, le slogan de la CNT, c'est « Du travail pour tous et toutes, d'accord, moins et autrement. » C'est-à-dire que toutes les personnes travaillent, que tout le monde puisse travailler s'il le souhaite, et le travail c'est large, hein, ça va aussi travail pour la collectivité. C'est ça aussi le plein emploi, le nombre de travail qui n'est pas rémunéré, le bénévolat est aussi énorme. Faire fonctionner des crèches, des gros groupements de parents d'élèves par exemple, ou des regroupements de commerçants, etc. Bon, il y a des emplois qui n'existent pas, enfin qui ne sont pas salariés. Donc c'est ça aussi, il faut remettre en cause qu'est-ce que le plein emploi et qu'est-ce que le travail en lui-même. Alors moi j'ai parlé aussi d'un autre cas, parce que donc on est ici en tant que CNT, nous on a fait une auto-réquisition. Voilà. Une auto-réquisition, c'est-à-dire
Orléans.
Voilà, Orléans, qui est Faubourg Madeleine, qui s'appelle le ministère de la crise du logement orléanais, en parallèle
à ce qu'avait fait le DAL à Paris.
À Paris. Donc on travaille avec le DAL, donc la CNT et le DAL sur Orléans, on a réquisitionné un bâtiment pour pouvoir y loger des mal logés et des sans logis, donc des SDF, des couples, des familles, etc. On a auto-réquisitionné, on a pris le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire autogestionnaire à la base. Donc assemblée générale une fois par semaine pour pouvoir décider des choses basiques comme la vie du lieu, des choses un peu plus d'ordre général et politique, les manifestations, les organisations, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il y a une vie réelle de ce côté-là. Et puis le troisième plan encore plus large, c'est-à-dire le combat politique du ministère qui est des logements pour tous, et notamment pour les gens qui sont dedans. On ne partira pas si on n'a pas de logement pour ces personnes-là.
Et toi, est-ce que tu y habites dans ce lieu ?
Non, j'y habite pas. Moi, je suis salarié, j'ai mon logement, donc je suis pas SDF ou mal logé, loin de là. Faut reconnaître quand on est bien placé. Et ces personnes, non, ces personnes sont à la rue. Moi, j'y ai dormi et j'y ai vécu quasiment un mois. C'est-à-dire pour mettre en place le fonctionnement collectif, pour m'intégrer un peu avec eux aussi. C'est des gens comme tout le monde.
Hein. Combien de personnes maintenant qui habitent là ?
Maintenant, ça a réduit. On est à 3 dossiers de célibataires et une famille de Polonais, justement. On peut parler des sans-papiers, par exemple, et de l'économie libérale. C'est une famille donc, d'origine polonaise. Le père est maçon. Donc, il est arrivé en France pour travailler en tant que maçon. Parce qu'il avait envie de changer d'air, etc. Il a eu des problèmes aussi judiciaires, il avait envie de se refaire. Et c'est quelqu'un qui est fondamentalement travailleur. Il a vraiment pas la main dans sa poche et il travaille dur. Il est arrivé sur le marché économique français, on lui a dit bah non. Il est polonais, la Pologne a fait partie de l'Union Européenne, ce que je sache. On nous fait de libéralisation des capitaux, des biens, des personnes, merde, des travailleurs quoi. Bah non en fait, ce qu'il faut savoir par exemple sur la Pologne et d'autres pays de l'Est, c'est que le marché de l'emploi en France, en Angleterre et dans les pays on va dire fondateurs de l'Europe, il y a un créneau de, je sais plus si c'est 6 ou 9 ans, un créneau de 6 ou 9 ans où seulement certains marchés de l'économie sont ouverts aux Polonais. Et encore, les marchés qui sont ouverts, il faut qu'ils fassent une démarche de demande. Voilà. Ce qui fait qu'il faut qu'ils aient un logement pour pouvoir faire cette demande, qu'ils aient aussi un patron qui accepte de faire des démarches administratives assez importantes, avec éventuellement des soutiens associatifs, syndicaux ou politiques pour pouvoir un peu pousser au niveau de la préfecture. Donc, pas de logement, pas de travail, pas de papier, parce qu'évidemment, il faut des papiers pour travailler. Et ouais, il est polonais, il est dans l'Union Européenne, sauf qu'il lui faut quand même un papier pour travailler.
Sui miei stracci sporchi, sulla mia nudità scheletrita, su mia madre zingara, su mio padre pecoraio, scrivo il tuo nome. Sul mio primo fratello predone, sul mio secondo fratello sciancato, sul mio terzo fratello lustrascarpe, sul mio quarto fratello mendicante, scrivo il tuo nome. Sui miei compagni della malavita, sui miei compagni disoccupati, sui miei compagni manovali, scrivo il tuo nome, libertà. Nomadi del deserto, sui braccianti di Medina, sui salariati di Orano, sui piccoli impiegati di Algeri, scrivo il tuo nome. Sulle misere genti di Algeria, sulle popolazioni analfabete dell'Arabia, sulle classi povere dell'Africa, sui popoli schiavi del mondo sottoproletario, scrivo il tuo nome, libertà.
Les papiers pour tous, les papiers pour tous.
Est-ce que tu peux me dire c'est quoi que tu proposes en fait là,
c'est le journal de la LCR.
Alors c'est le journal de la LCR, donc ouais. Toi t'étais à la LCR.
Ouais.
Alors on peut marcher un petit peu ensemble.
J'ai l'habitude. Ouais.
Alors, c'est quoi la une là, de rouge là, en ce moment ?
Ah bah tu vois, c'est une une qui rappelle toutes les saloperies que Sarkozy essaie de faire passer, la TVA antisociale, la franchise médicale, la politique qui mène vis-à-vis des sans-papiers. Parce que,
alors ça s'appelle Sarkozy tire à vue, c'est
ouais,
ça ?
C'est ça.
Donc ah on ouais, a des balles.
Il a sorti le flingue et que voilà, il dessoude tout ce qui bouge, il sulfate, il éparpille, il disperse quoi.
Alors la LCR, un peu comme Sud, un peu comme la CNT, comme la CGT, comme le PC, vous êtes partie prenante dans ce mouvement-là des sans-papiers à Tours. Ce mouvement des sans-papiers, ah oui, sans-papiers à Orléans, excuse-moi, parce qu'en fait j'arrive de Tours.
Ouais, j'ai bien compris.
Alors on est à Orléans. Donc moi ce qui m'étonne toujours, c'est que quand il y a des manifestations comme celle-ci, hein, pour soutenir finalement un mouvement qui semble à la base autogestionnaire, hein, des sans-papiers, et qu'on a comme ça plein de drapeaux, hein, que j'ai les noms que j'ai donnés tout à l'heure,
Donc, quand c'est les manifestations, on voit que tout le monde arrive à se regrouper, toutes les différentes associations, les syndicats et les partis de gauche arrivent à se réunir. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de battre la question des élections, il y a division. Alors, comment t'expliques ça, cette chose-là, que dans la rue, ça marche, l'unité, et lorsque c'est au niveau des élections, ça ne fonctionne plus?
Alors, je pense que c'est une vraie question. Hein. Mais je pense que la question, c'est pas tant est-ce que c'est la rue ou les élections. La différence, c'est que c'est beaucoup plus facile de se mobiliser ensemble contre quelque chose. En l'occurrence, la politique de Sarkozy, là, on peut être très très nombreux d'accord, quelles que soient nos orientations politiques, pour être contre l'expulsion des sans-papiers, contre la politique raciste du gouvernement. Les élections, c'est autre chose, parce qu'au-delà de ce qu'on pense des élections en tant que telles, on fait des propositions qui sont d'ordre programmatique, pour, pas seulement contre la politique de Sarkozy, mais ce qu'on veut à la place. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'être d'accord sur ce qu'on veut en positif. Et d'être d'accord sur un point de lutte, comme c'est le cas où on se retrouve, c'était le cas pendant le CPE, c'est le cas sur les sans-papiers, j'espère que ce sera le cas, je me suis convaincu, sur des tas d'autres sujets à la rentrée. C'est beaucoup plus facile que dans un cadre électoral où là, bah, c'est tout un programme et là, on a des divergences. Par exemple, avec une partie de la gauche, est-ce qu'on doit aller au gouvernement avec le PS? C'est le cas d'une divergence qu'on a, par exemple, avec les camarades du PC. Est-ce qu'on peut, avec, aujourd'hui, mener une politique vraiment au service de la population, des classes, des travailleurs, des jeunes, avec le PS ou pas? Et là, c'est une divergence qui ne s'exprime pas dans un mouvement sur la solidarité avec les sans-papiers, mais qui s'exprime dans le cadre d'un débat là de programme qu'on a avec le PC. Donc c'est pour ça qu'on ne se retrouve pas dans le même cadre.
Oui, mais cette difficulté finalement de d'ouvrir sur l'avenir, hein, d'être dans le positif, cette difficulté, est-ce que finalement on ne la retrouve pas aussi dans la rue? Parce que là, concrètement, par exemple, sur ce mouvement des sans-papiers, il y a une liste donc arrêtée, hein, qui a été donnée à la préfecture. Et on voit bien qu'il s'agit de régulariser cette liste. Et ensuite, ce sera la fin de ce mouvement. Et là, on voit bien qu'on est sur une perspective au minima d'avenir.
Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment le minimum du minimum. Moi, je pense que... alors moi, je suis pour que les sans-papiers dont la préfecture a reçu les dossiers soient évidemment tous régularisés. Au-delà, notre but, c'est pas de lutter manif après manif, cas après cas, jusqu'à vitam aeternam. C'est la situation dans laquelle on est, parce que c'est le fruit d'un rapport de force. Après, le but, moi personnellement, bon, c'est le cas de la LCR, et on n'est pas les seuls à revendiquer la régularisation de tous les sans-papiers, mais de toute façon, c'est toute la politique d'immigration qu'il faut changer, et que les frontières, elles n'existent pas aujourd'hui pour les capitaux avec l'Europe. Par contre, on met des barbelés pour les gens, quoi. C'est l'Europe de Schengen. Ça, c'est dégueulasse. Il y a des tas de gens qui meurent à nos frontières tous les jours. Et ça, il ne suffit pas de réclamer la régularisation de tous les sans-papiers pour mettre fin à ça. C'est l'ouverture des frontières, la liberté d'installation, de circulation dans tous les pays européens qu'il faut réclamer aujourd'hui.
Ouais. Mais comment t'expliques que ces idées-là, cette idée de la liberté de circulation, la fin des frontières, sont des idées qui semblent être beaucoup en recul par rapport, par exemple, aux années 70? Enfin, je veux dire, là, on a l'impression qu'il faut remonter loin, il faut revenir au tout début. Comment t'expliques ce recul-là de la pensée de gauche?
Alors, bon, déjà, il y a la situation générale. C'est vrai que les frontières étaient ouvertes avant 1974. Et la droite était au pouvoir. À l'époque, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ils n'hésitaient pas, y compris, à aller chercher dans les pays du tiers-monde, en Afrique, aller directement dans les villages, chercher des gens parce qu'ils avaient besoin de monde pour les chantiers, les routes, dans les usines et compagnie, quoi. Donc il y avait, d'une part, pour les mouvements de gauche, s'appuyer sur... Bon, on n'avait pas tous les reculs qu'on s'est bouffés jusqu'ici, donc c'était même y compris dans la conscience des gens. L'extrême droite n'était pas là où on en est, le recul des idées, on sortait de 68. Je dis pas que le racisme n'existait pas, mais on pouvait s'appuyer quand on était de gauche sur une situation dans laquelle ben, voilà, les frontières n'étaient pas fermées et que on partait d'une situation a priori déjà plus favorable. Aujourd'hui, on est dans une situation où les frontières sont fermées de 74, les législations contre les immigrés ont été aggravées par tous les gouvernements, malheureusement, gauche et droite réunis d'année en année, et il y a un recul énorme en plus au niveau social des gens, au niveau du chômage, la misère, le pouvoir d'achat qui baisse, les situations catastrophiques, des bassins d'emploi qui ont disparu. Bah ouais, ça fait le lot de tous ceux qui aujourd'hui disent bah, c'est la faute des immigrés, quoi. Alors, c'est vrai que c'est moins facile, parce qu'aujourd'hui le Front National, bon, jusqu'à peu faisait de sacrés scores. Aujourd'hui la droite a siphonné son électorat, mais sur des bases qui sont politiquement quand même assez proches. Et on se retrouve dans une situation où quand on parlait de l'eupénisation des esprits, c'est pas que des mots, quoi. C'est qu'aujourd'hui, ça a pénétré des couches de la société. C'est pas que tout le monde, tous ces gens soient des fascistes, c'est pas ça. Mais c'est que le recul lié à l'aggravation des politiques d'immigration et puis à l'aggravation des conditions sociales, il est partagé assez largement. Et malheureusement, certaines organisations, y compris même dans les organisations de gauche et des syndicats, ça a pu. Alors évidemment, pas à la sauce du Front National. Et c'est des organisations où les militants peuvent combattre le Front National, mais se retrouver sur des positions qui est de mon point de vue donner un peu de l'eau au moulin de ce type de politique. Le PC dans les années 80 on disait produisons français.
Ça c'est cette tradition ouvrière.
C'est vrai que la droite c'est quand même, là, je suis d'accord, c'est quand même réarmé depuis par les années. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'une question qu'elle a des inquiétudes. Aujourd'hui des intellectuels plus brillants qu'avant. Avant, il faut dire que la droite était dans une situation où elle était marquée, même si ça a duré très très longtemps. Là, ce qu'on a vu récemment, les derniers septennats de Chirac, c'est la queue de la comète, mais qui était une droite qui était marquée par une situation qui était issue de la Seconde Guerre mondiale, où les intellectuels de droite et la droite étaient pour l'essentiel des collabos. Enfin, et on est sorti de cette situation avec une droite qui avait pas le vent en poupe politiquement, parce que y compris une partie de sa base était discréditée par la collaboration avec les nazis, avec Vichy. Et en plus d'un autre côté, une situation où même par exemple aux États-Unis, qui est pas le pays du socialisme autant que je sache, des présidents républicains disaient que bah oui, il fallait pas tout pour le privé, qu'il fallait y compris une part de contrôle de l'État et tout. Aujourd'hui, qui passerait pour d'affreux bolcheviques, mais enfin c'est ce qu'ils défendaient à l'époque, et c'est ce compris ce que la droite défendait, parce que le rapport de force ne permettait pas de défendre autre chose, et c'était aussi le moyen qu'elle avait trouvé pour reconstruire. Et, au final, retrouver les profits qu'elle escomptait. Donc on était dans cette situation-là. Aujourd'hui, ça c'est fini, ça c'est vrai. Alors, pour ce qui est de la gauche, son problème, c'est aujourd'hui, par rapport au capitalisme mondialisé, parce que c'est la situation dans laquelle on se trouve, c'est d'être capable de trouver comment s'affronter. Et là, il ne s'agit pas de... Je sais pas, c'est la question des intellectuels, elle se pose, mais la vraie question, c'est d'être capable de définir une politique qui soit au service de ceux dont ils se réclament, hein, quand même l'essentiel de la population, les jeunes, les travailleurs, les classes populaires, pour faire en général, être en capacité de répondre à ça, comme la droite est aujourd'hui en capacité de répondre aux attentes du MEDEF. Ça, malheureusement, on n'est pas là. Et là, il y a différentes orientations. Et effectivement, celle du PS, et en partie aussi, hein, celle du PC, et celle de ce que tu appelles la gauche de la gauche, bon, c'est une définition assez vague, mais on dira de ceux qui se situent encore dans le camp de la transformation de la société, de la lutte contre le libéralisme, le capitalisme, comme on voudra. Les coordonnées ne sont pas les mêmes. Alors après, la politique qu'on essaye, je ne dis pas qu'on y parvient toujours, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras musclés, c'est d'essayer de définir par rapport aux besoins de la population une politique qui y réponde et qui se donne les moyens de l'appliquer. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, se donner moyen de l'appliquer, c'est pas dans des combinaisons gouvernementales ou parlementaires avec la gauche, c'est pas dans le diagnostic partagé, dans la concertation sociale, comme le font les directions syndicales aujourd'hui avec le gouvernement en place, qu'on va y arriver, mais c'est par la lutte, la mobilisation, et la mobilisation avec comme perspective politique qui se donne, c'est assez simple, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre, comme unique objectif, la satisfaction de ses besoins, et qui soit basé pour ça sur la participation active de la majorité des gens, l'auto-organisation des luttes, tout ça. Et avec, après, la question des gouvernements, on nous la pose souvent, nous, notre gouvernement tel qu'on voit, c'est la prolongation de ça, c'est issu de ça, c'est un gouvernement pas seulement au service des travailleurs, mais un gouvernement qui soit issu des luttes des travailleurs. C'est très compliqué à mettre en œuvre, ça se tranche au parti en marchant, mais c'est la perspective politique qu'on se donne.
La classe padrona della ricchezza, giunta a tanta confidenza con la ricchezza, da confondere la natura con la ricchezza. Così perduta nel mondo della ricchezza da confondere la storia con la ricchezza. Così addolcita dalla ricchezza da riferire a Dio l'idea della ricchezza. La classe della bellezza e della ricchezza, un mondo che lascia fuori dalla sua porta. E la classe degli scialli neri di lana, dei grembiuli neri da poche lire, dei fazzoletti che avvolgono le facce bianche delle sorelle, delle attese cristiane, dei silenzi fratelli del fango e del grigiore dei giorni del pianto. la classe che dà supremo valore alle sue povere 1000 lire e su questo fonda una vita, pena capace di illuminare la fatalità del morire.
Nous proclamons la solidarité, l'égalité, la liberté, la primauté de l'humain. C'est pourquoi les organisations sous-signées exigent ensemble l'arrêt des rafles, des arrestations, des contrôles aux faciès et des expulsions, la fermeture des centres de rétention, l'arrêt de la répression vis-à-vis des soutiens, la régularisation des sans-papiers.
C'était À bout de souffle. Archives, extrait, La rage, de Pier Paolo Pasolini, 1963. Michel Foucault, cours au Collège de France, Il faut défendre la société, diffusion France Culture, 1976, dans l'émission Les chemins de la connaissance. Lecture par Jean-Luc Godard, du poème Le programme en quelques siècles, d'Armand Robin. Diffusion France Culture, avril 2007, dans l'émission Poésie sur parole. Musique, générique, Fred Fritz. The Soul of the Black Panthers, The Revolution Will Not Be Televised. Beethoven, 7e symphonie. Et Ulrich Krieger.